Je le savais. Ce fut la première phrase prononcée par Luoji lorsqu'il prit connaissance de la bataille sombre qui avait eu lieu aux deux extrémités du système solaire. Abandonnant sur place un Shixiang décontenancé, il sortit seul en courant de la chambre, traversant le quartier comme un démon jusqu'à ce qu'il s'arrête devant le désert de la grande plaine du nord de la Chine. « J'avais raison ! J'avais raison !» cria-t-il à destination du ciel. C'était la pleine nuit, et peut-être en raison de la pluie qui était tombée, la visibilité était excellente. Il pouvait voir les étoiles, mais moins clairement que dans le ciel du 21e siècle. Les astres apparaissaient très diffus, et il arrivait tout juste à distinguer les plus brillants d'entre eux. Toutefois, Luoji éprouva à nouveau cette sensation qu'il avait habité deux siècles plus tôt en cette nuit d'hiver où il avait marché sur le lac gelé. Luoji, le citoyen ordinaire, disparut. Il redevint colmateur. Dashi, j'ai entre mes mains la clé de la victoire de l'humanité, dit-il à Shixiang qui l'avait suivi.
Oh!
Shixiang eut un rire un peu moqueur qui tempéra l'excitation de Luoji. Je sais que vous ne me croyez pas.
Alors, dites, qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Demanda Shixiang. Luoji s'assit sur le sable. Ses sentiments parurent dégringoler au fond d'un ravin. « Ce que je vais faire, je crois que je ne peux plus rien faire. »«
Vous pourriez au moins faire remonter votre réflexion là-haut. »«
Je ne sais pas si ça marchera, mais essayons toujours. J'aurais au moins fait tout ce que je pouvais pour accomplir mon devoir. »«
De quel niveau de hiérarchie avez-vous besoin ?»«
Le plus haut, le secrétaire général des Nations Unies, ou bien le président du comité conjoint de la flotte solaire. »
Ce n'est pas gagné, on n'est que des citoyens lambda, mais bon, ça ne coûte rien d'essayer. Vous pourriez commencer par aller voir le gouvernement de la ville, trouver le maire.
Bien, je pars en ville.
Luoji se leva.
Je viens avec vous.
Pas besoin, j'y vais seul.
Je suis quand même un fonctionnaire du gouvernement, j'aurai plus de chances de les convaincre de nous rencontrer.
Luoji leva la tête vers le ciel. Quand la gouttelette atteindra-t-elle la Terre?
Aux informations, ils ont dit dans une dizaine d'heures.
Savez-vous ce qu'elle vient faire? Sa mission n'était pas de détruire la flotte unie, ni même d'attaquer la Terre. Elle vient pour me tuer. Je ne veux pas que vous soyez avec moi à ce moment-là.
Hé hé!
Lâcha encore une fois Shixiang de son rire moqueur.
Mais il nous reste encore 10 heures, non? Le moment venu, je prendrai mes distances, voilà tout.
Luoji sourit amèrement en secouant la tête. « Vous ne me prenez absolument pas au sérieux. Pourquoi voulez-vous m'aider ?»«
Vieux frère, vous croire ou pas, ce n'est pas mon problème, c'est le leur, là-haut. Moi, je ne prends pas de risque. Si vous avez été choisi il y a 200 ans parmi des milliards d'habitants de la Terre, c'est qu'il y avait bien une raison. Si je vous retardais, je risquerais de devenir coupable pour l'éternité, non ?» Si la hiérarchie ne vous prend pas au sérieux, je n'aurais rien perdu, j'aurais juste fait un tour en ville, pas vrai? Mais il y a une chose. Quand vous me dites que ce gadget qui fonce vers la Terre vient pour vous tuer, là, je ne vous crois pas. Croyez-moi, je m'y connais en meurtre, et là, trisolarien ou pas, c'est trop gros.
Luoji et Shixiang arrivèrent aux premières lueurs de l'aube à l'entrée de la vieille ville qui menait à la cité souterraine. Ils remarquèrent que l'ascenseur fonctionnait encore normalement. Une grande foule arrivait en traînant de gros bagages. Dans le sens inverse, peu nombreux étaient ceux qui descendaient. Il n'y avait que 2 autres passagers avec eux.
« Vous êtes des hibernautes, non? Ils sont tous en train de remonter, pourquoi est-ce que vous descendez? C'est la cohue en bas !»
dit un jeune homme dont les vêtements affichaient des boules de feu scintillantes. En y regardant de plus près, on voyait qu'il s'agissait d'images de la destruction de la flotte unie.
« Et vous, qu'est-ce que vous allez y faire ?» demanda Shixiang.
« J'ai trouvé une maison à la surface, je redescends chercher quelques affaires, » répondit-il en hochant la tête. « Vous autres, de la surface, vous allez gagner le gros lot. Nous n'avons aucune maison là-haut, et les droits de propriété vous appartiennent encore pour la plupart. Nous qui montons, nous n'avons pas d'autre choix que de vous les acheter.
Si la cité souterraine s'effondre et que tous ses habitants jaillissent à la surface, il n'y aura plus vraiment de commerce qui vaille, dit Shitsiang.
Un homme d'âge moyen, recroquevillé dans un coin de l'ascenseur et qui les écoutait parler, se prit soudain le visage entre les mains et gémit.
« Oh non oh !»
Puis il s'accroupit pour pleurer. Ses vêtements projetaient une scène biblique. Adam et Ève, nus sous un arbre du jardin d'Éden. Un serpent maléfique ondulait entre leurs deux corps. C'était peut-être un symbole de la bataille sombre qui venait d'être livrée.
« Il y a plein de gens comme lui ?»
fit le jeune en pointant insolemment celui qui pleurait.
« Ils n'ont plus toute leur tête ?»
Puis ses yeux s'éclairèrent.
« En réalité, le jour de l'Apocalypse, c'est un jour magnifique, peut-être le plus beau d'entre tous. C'est le seul moment de toute l'histoire où les hommes ont une chance d'abandonner toute angoisse et tout fardeau, qu'ils peuvent entièrement appartenir à eux-mêmes. Ceux dans son genre sont des abrutis. La manière de vivre la plus responsable aujourd'hui, c'est de profiter de chaque instant. »
Quand l'ascenseur arriva à destination, Luoji et Shitsiang sortirent du grand hall et sentirent immédiatement une odeur étrange dans l'air, une odeur de brûlé. Contrairement à la dernière fois, une forte luminosité inondait la cité souterraine. Elle était baignée d'une lumière blanche qui avait quelque chose d'angoissant. Luoji leva les yeux. À travers les interstices des arbres, il ne vit pas un ciel bleu, mais une infinité blanche. L'image d'azur autrefois projetée sous le dôme avait disparu. Ce blanc lui rappela les cabines sphériques des vaisseaux de la flotte qu'il avait vues aux informations télévisées. Les pelouses étaient jonchées des décombres des bâtiments feuilles des arbres géants. Non loin se trouvaient également quelques épaves de voitures volantes dont l'une était en feu et encerclée par une foule de personnes qui alimentaient le brasier en y jetant des débris tombés des arbres. Certains y lançaient même leurs propres vêtements encore scintillants. Dans une grande colonne d'eau qui jaillissait d'une canalisation éventrée, un groupe d'adultes batifolait comme des enfants. Ils poussaient des cris d'excitation, faisant un pas de côté chaque fois qu'un nouveau débris tombait d'un arbre, puis ils se regroupaient à nouveau et poussaient de nouvelles clameurs de joie. Luoji leva encore la tête et remarqua que certains arbres étaient en feu. Les sirènes de camions de pompiers retentissaient tandis qu'ils emportaient dans les airs des morceaux de feuilles en flammes. Les passants qu'ils croisaient dans la rue pouvaient se diviser en deux catégories, représentées par les deux individus qu'ils avaient rencontrés dans l'ascenseur. Une première partie d'entre eux était abattue, ils erraient, le regard maussade, ou bien étaient simplement assis sur les pelouses, paralysés par le désespoir, un désespoir qui surgissait pour une autre raison. On ne craignait plus la fin de l'humanité, mais les conditions de vie du présent. D'autres étaient au contraire follement excités et se laissaient aller à des comportements désinvoltes, faisant fi de toute convention sociale. Le trafic lui aussi était chaotique. Luoji et Shitsiang durent attendre une demi-heure avant de réussir à monter dans un taxi volant. Lorsque ce véhicule sans conducteur les entraîna entre les arbres, Luoji repensa à son terrible premier jour dans cette ville et il éprouva la même nervosité que s'il avait embarqué dans des montagnes russes. Heureusement pour lui, la voiture arriva très vite à la mairie. Shitsiang s'y était déjà rendu plusieurs fois pour son travail et il était relativement familier des lieux. Après un grand nombre de démarches, ils obtinrent enfin l'accord de rencontrer le maire, mais il fallait attendre l'après-midi. Luoji avait prévu qu'il devrait patienter, il était même surpris que le maire accepte de les recevoir. Dans cette période si trouble, ils n'étaient après tout que des personnages insignifiants. Au déjeuner, Shitsiang lui expliqua que le maire venait d'être nommé, la veille. Jusqu'ici, il était officier en charge des affaires hibernautes. Il était en quelque sorte le supérieur hiérarchique de Shitsiang, qui le connaissait bien.
« C'est un compatriote !» précisa Shitsiang.
Le terme de compatriote n'avait plus la même signification que deux siècles plus tôt. Il n'était plus porteur d'un sens géographique, mais temporel. Tous les hibernautes ne pouvaient néanmoins pas se désigner ainsi entre eux. Seuls ceux qui avaient été hibernés au même moment pouvaient en faire usage. Des individus nés à une même époque avaient plus en commun que ceux qui venaient simplement d'un même périmètre géographique. Ils ne purent rencontrer le maire qu'à 16h30. D'ordinaire, les dirigeants de cette époque devaient répondre à certains standards de beauté et de célébrité pour avoir une chance d'être élu, mais le maire actuel avait une apparence tout à fait quelconque. Il avait à peu près le même âge que Shih-Tsiang, mais était beaucoup plus maigre. Une de ses particularités faisait dire au premier coup d'œil que c'était un hibernaute. Il portait une paire de lunettes, certainement des antiquités datant de 2 siècles, car même les lentilles de vue avaient disparu depuis longtemps. Ceux qui, dans le passé, s'y étaient habitués avaient tendance à se trouver étranges sans, et c'est pourquoi beaucoup d'hibernautes continuaient à en porter, quand bien même ils avaient recouvré une vue parfaite. Le maire avait l'air épuisé. Le simple fait de se lever de sa chaise sembla lui demander un considérable effort. Lorsque Shih-Tsiang s'excusa du dérangement et le félicita pour cette promotion, il répondit en secouant la tête. « C'est une époque instable qui permet à des hommes primitifs et robustes comme nous de revenir sur le devant de la scène.
Vous êtes maintenant sans doute l'hibernaute politiquement le plus puissant de la Terre, non ?»«
Qui sait ? Avec l'évolution de la situation, nous avons peut-être des compatriotes encore plus haut placés. »«
Et l'ancien maire, Chris Donner ?»«
Non, il reste encore des hommes modernes à garder la tête froide. » C'était un homme très compétent, mais il est mort dans un accident il y a 2 jours, écrasé par une voiture lors d'une émeute. Le maire regarda Luoji qui se tenait derrière Shih-Tsiang et tendit immédiatement la main vers lui.
« Ah, docteur Luoji, bonjour. Je vous connais bien sûr, je faisais partie de vos admirateurs il y a 2 siècles. Parce que des 4, c'est vous qui ressembliez le plus à l'image que je me faisais d'un colmateur. » En ce temps-là, personne n'avait la moindre idée de ce que vous aviez derrière la tête.
Puis il lâcha une phrase à demi-mot qui les surprit. « Vous êtes le 4e sauveur que j'accueille depuis 2 jours. Une bonne dizaine attendent encore dehors, mais je n'ai vraiment pas la force de les recevoir. »
« Monsieur le maire, il n'est pas comme eux. Il y a 2 siècles. »
« Il y a 2 siècles, il avait été sélectionné parmi des milliards de gens. » Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de vous rencontrer aujourd'hui. » Puis il pointa Shih-Tsiang du doigt.
« J'ai aussi quelque chose à vous demander, mais nous en reparlerons après. Dites-moi d'abord ce qui vous amène. Mais je vous en prie, ne me dites pas comment vous comptez sauver le monde. La plupart du temps, cela prend des heures. Dites-moi directement ce que vous voulez que je fasse. »
À peine Luoji et Shih-Tsiang eurent-ils fini d'exprimer leur intention que le maire secoua la tête.
« Même si je voulais vous aider, je ne le pourrais pas. J'ai moi-même tout un tas de dossiers à faire remonter, et à un niveau hiérarchique moins haut que ce que vous pouvez imaginer. Simplement auprès du gouvernement provincial et de quelques institutions nationales. Vous vous doutez bien que, plus haut, ils font face à des problèmes autrement plus graves que les miens. »
Luoji et Shih-Tsiang suivaient les informations, et ils savaient naturellement de quel problème parlait le maire. L'annihilation totale de la flotte unie avait vu l'évasionnisme renaître après 2 siècles de silence. La Fédération européenne avait même envisagé un premier projet de fuite qui consistait à procéder à un tirage au sort dans toute la société pour désigner les premiers 100 000 citoyens qui pourraient partir. Ce plan avait, contre toute attente, été validé lors d'un grand référendum populaire. Mais après les résultats du tirage, la majorité de ceux qui n'avaient pas été choisis protestèrent et déclenchèrent des manifestations monstres à travers le pays. Aux yeux du grand public, l'évasionnisme était de nouveau devenu un crime contre l'humanité. Après que la bataille sombre eut éclaté entre les vaisseaux rescapés de la flotte unie, les accusations envers l'évasionnisme se renforcèrent. La réalité avait prouvé que, dans l'espace, l'esprit humain s'aliénait s'il était coupé du cordon spirituel terrestre. Même si le projet de fuite réussissait, ceux qui s'en sortiraient ne pourraient pas représenter l'espèce humaine, mais quelque chose d'autre, de plus sombre et de plus pernicieux. Comme le monde trisolarien, cette autre chose se dressait tel un ennemi face à la civilisation humaine. On lui donna un nom, l'anticivilisation. Alors que la gouttelette approchait de la Terre, l'évasionnisme devint pour le grand public un sujet plus sensible que jamais. Les médias s'alarmaient en disant qu'il y aurait certainement des tentatives d'évasion avant l'attaque de la gouttelette. Les bases des ascenseurs spatiaux et celles de lancement d'engins spatiaux se retrouvèrent encerclées par la foule qui voulait bloquer toutes les voies menant à l'espace.
Et la foule avait ce pouvoir. Tous les citoyens de la Terre avaient maintenant le droit de porter des armes, des petits pistolets laser pour la plupart. Si un pistolet laser ne représentait pas en soi une menace contre les cabines des ascenseurs spatiaux ou les navettes spatiales, sa différence avec les pistolets traditionnels était que plusieurs pouvaient se concentrer sur un seul point. Si 10 000 pistolets faisaient simultanément feu sur la même cible, ils étaient en mesure de détruire le matériau le plus résistant. Et les gens qui se massaient à proximité des bases n'étaient pas seulement des dizaines de milliers, mais des millions. Parmi eux, au moins un tiers était armé. Dès qu'ils s'apercevaient que des cabines ou des navettes décollaient, ils pointaient au même moment leurs armes sur les engins. La ligne de visée des lasers étant très précise, la majorité des tireurs parvenaient à pointer leurs armes sur la cible et arrivaient parfois à la détruire. Dans de telles circonstances, le trafic entre la Terre et l'espace fut interrompu. Le chaos se poursuivait. Ces deux derniers jours, la cible des attaques avait changé. On visait maintenant les cités spatiales en orbite géosynchrone. Des rumeurs circulaient sur Internet prétendant que telle ou telle cité était en train de se convertir en vaisseau de fuite. Celles-ci furent l'objet d'attaques de la part de foules en colère. En raison de la distance, les faisceaux des lasers qui atteignaient les cités avaient une portée extrêmement faible, sans compter que les cités spatiales étaient en rotation permanente, si bien qu'aucune d'entre elles ne subissait de réels dégâts matériels. Mais cette activité était devenue un loisir collectif pour la dernière génération d'humains avant l'apocalypse. Cet après-midi-là, Nouveau Paris, la troisième plus grande cité spatiale de la Fédération européenne, se retrouva simultanément irradiée par plusieurs millions de faisceaux laser, ce qui provoqua la montée soudaine de la température dans la ville et obligea l'évacuation de ses résidents. Depuis la cité, la Terre avait eu l'air encore plus brillante que le soleil. Luoji et Shitsiang n'avaient plus rien à dire. Votre travail au bureau d'immigration des hibernautes m'a fait une grande impression, dit le maire à Shitsiang. Tout comme Guo Chenming, vous le connaissez, n'est-ce pas? Il vient d'être promu directeur du bureau de sécurité publique. Il vous a recommandé. J'aimerais que vous puissiez venir travailler ici. J'ai plus que jamais besoin d'hommes comme vous. Shitsiang réfléchit un instant, puis hocha la tête. Bon, attendez que j'ai fini de sécuriser le quartier à la surface. Quelle est la situation en ville? De pire en pire, mais elle est encore sous contrôle. L'important est maintenant de veiller au bon approvisionnement en électricité. Si les réacteurs s'arrêtent, la ville est foutue. Ce n'est pas le même genre de trouble qu'à notre époque. Non, en effet. C'est d'abord leur source qui est différente. Ils prennent naissance dans un profond sentiment de désespoir pour le futur, et c'est quelque chose de très dur à gérer. En même temps, nous avons moins de moyens d'agir qu'à notre époque, continua le maire. Puis il afficha une interface sur le mur. Regardez donc ce qui se passe sur la place centrale de la ville. C'est filmé à une hauteur de plus de 100 mètres. C'était le lieu où se trouvait le mémorial du grand ravin et où Shitsiang et Luoji s'étaient cachés pour échapper à la voiture volante contrôlée par le virus killer. On ne voyait plus ni la stèle ni le petit désert, mais un parterre blanc. Des particules blanches ondulaient sur la place comme une marmite de grues ou de riz en train de bouillir. « Est-ce que ce sont des hommes ?» demanda Luoji avec perplexité. « Des hommes nus. C'est une gigantesque orgie. Il y a déjà près de 100 000 participants et ça continue d'augmenter. » La tolérance entre les différentes pratiques hétérosexuelles et homosexuelles avait largement dépassé l'imagination de Luoji. Ces scènes d'orgie collective n'étaient plus rares désormais, mais celle-ci leur parut néanmoins profondément choquante. Luoji ne put s'empêcher de penser aux scènes de déchéance dont parlait la Bible avant que l'humanité ne reçoive les 10 commandements. C'était une scène d'apocalypse typique. « Comment le gouvernement peut-il autoriser ça ?» interrogea Shitsiang. « Comment voulez-vous l'interdire? C'est tout à fait légal aujourd'hui. Si nous intervenons, c'est nous qui serons dans l'illégalité. » Shitsiang poussa un long soupir. « Ouais, je sais. » Aujourd'hui, les policiers et les militaires ne contrôlent plus grand-chose.
Nous avons retourné tout le code civil, mais nous n'avons rien trouvé qui puisse nous aider à mettre un terme à cette situation.
Si la ville entière est devenue comme ça, autant qu'elle se fasse pulvériser par la gouttelette.
Les paroles de Shi Xiang sortirent Luoji de sa torpeur. Il s'empressa de demander « Combien de temps avant que la gouttelette atteigne la terre ?»
Le maire quitta l'interface retransmettant ce grandiose spectacle lubrique et zappa sur une chaîne d'information en direct qui présentait une carte virtuelle du système solaire. La ligne rouge saillante qui indiquait la trajectoire de la gouttelette ressemblait à l'orbite d'une comète, à la différence près que son extrémité arrivait sur Terre. Dans le coin en bas à droite de l'écran, un compte à rebours indiquait que si la gouttelette ne réduisait pas sa vitesse, elle gagnerait la Terre dans 4 heures et 54 minutes. Le bandeau d'information affichait maintenant l'analyse d'un expert sur la gouttelette. Malgré la panique qui gagnait le monde, la communauté scientifique avait recouvré sa raison après le choc initial de la défaite et l'analyse était calme et posée. L'expert considérait que, même si l'humanité ne connaissait rien du moyen de propulsion et de la source d'énergie de la gouttelette, tout laissait croire qu'elle faisait à présent face à un problème de consommation d'énergie. Car après avoir terminé la destruction de la flotte unie, son accélération était devenue bien moins puissante. Elle était passée à proximité de Jupiter mais ne s'était pas préoccupée des bases spatiales et elle avait utilisé la gravité de la planète pour reprendre de la vitesse, une action qui renforçait l'hypothèse selon laquelle elle avait déjà épuisé une grande part de son énergie. Les scientifiques estimaient que l'idée que la gouttelette aille s'écraser sur Terre était sans fondement, mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'elle venait y faire.
« Je dois partir, » dit Luoji. « Ou cette ville va vraiment être détruite.
Pourquoi » « Pourquoi ?» demanda le maire.
« Il croit que la gouttelette vient pour le tuer, » dit Shi Xiang.
La voix était rouillée. Cela faisait visiblement longtemps qu'il n'avait pas ri.
« Docteur Luoji, vous êtes l'homme le plus égocentrique que j'ai jamais rencontré. »
Après être revenu à la surface, Luoji et Shi Xiang prirent immédiatement place dans une voiture. En raison du flux de migrants qui jaillissaient de la cité souterraine et du trafic devenu intense à la surface, il leur fallut 1 heure et demie avant de quitter la vieille ville. Leur véhicule longeait l'autoroute. Ils conduisaient en direction de l'ouest. Depuis le téléviseur installé dans la voiture, on pouvait voir que la gouttelette approchait de la Terre à une vitesse de 75 km par seconde. Et qu'elle ne montrait aucun signe de ralentissement. Si elle conservait cette vitesse, elle arriverait sur Terre 3 heures plus tard. L'affaiblissement des réacteurs électriques de la ville avait pour effet de ralentir l'allure de la voiture, et Shi Xiang, qui était au volant, dut utiliser une batterie de secours pour maintenir sa vitesse. Ils traversèrent plusieurs quartiers habités par des populations d'hibernautes, dont le 5e village de la Nouvelle Vie, et continuèrent à rouler en direction de l'ouest. Ils n'échangèrent rien de tout le long de la route. Leur attention était braquée sur la retransmission télévisée. Toujours sans ralentir, la gouttelette franchit l'orbite de la Lune. Elle atteindrait la Terre dans 1 heure et demie. Comme on ne connaissait pas sa future orientation, pour éviter des mouvements de panique, les médias refusaient de donner la position présumée où elle allait frapper si elle suivait cette même trajectoire. Luoji prit enfin la décision dont il avait jusqu'ici retardé l'échéance.
« Dashi, arrêtons-nous ici. »
Shi Xiang stoppa le véhicule. Ils descendirent tous deux. Le crépuscule qui affleurait presque l'horizon étendait l'ombre des deux hommes sur le sable. Comme son cœur, Luoji sentit que la terre sous ses pieds devenait plus molle. Il avait le sentiment qu'il ne pourrait pas rester debout longtemps.
« Je ferai de mon mieux pour me rendre dans l'endroit le plus désert possible. Il y a une ville devant nous. Je vais prendre ce virage. Vous arriverez à rentrer. Évitez simplement de prendre la même direction que moi. »«
Vieux frère, je vous attendrai ici. Et quand vous aurez terminé, nous repartirons ensemble, » dit Shi Xiang.
Puis il sortit des cigarettes. Ce fut seulement au moment de chercher son briquet qu'il se rappela qu'elle n'avait plus besoin d'être allumée. Luoji remarqua que, comme toutes les autres choses qu'il avait apportées du passé, cette vieille habitude non plus n'avait pas changé chez lui.
Luoji eut un sourire triste. Il espérait que Shi Xiang pense vraiment ce qu'il venait de dire. Au moins, leurs adieux seraient plus faciles.
Attendez-moi, si vous le voulez. Le mieux dans ce cas, c'est de vous rendre de l'autre côté de la digue. Je ne sais pas quelle sera la puissance de la collision.
Shi Xiang secoua la tête en souriant.
Vous me rappelez un intellectuel que j'ai connu il y a plus de 200 ans. Un type comme vous. J'ai commencé par le retrouver en pleurs devant l'église Saint-Joseph de Wanfujing. Et puis tout s'est très bien passé pour lui. J'ai vérifié après mon réveil, il a presque vécu 100 ans.
Vous ne m'avez jamais parlé du premier homme à avoir touché la gouttelette, Ding Yi. Vous le connaissiez, non?
Il est allé chercher la mort tout seul, il n'y a rien à faire contre ça.
Shi Xiang regarda le ciel rempli de nuages crépusculaires comme s'il essayait de se remémorer le physicien.
Mais il avait les idées larges. C'était ce genre de gars à voir tout avant tout le monde. Je n'ai jamais rencontré personne d'autre comme lui dans ma vie. Un vrai sage. Vieux frère, vous devriez apprendre de lui.
Et je vous répondrai la même chose, Dashi. Vous et moi, nous sommes des hommes ordinaires, dit Luoji en regardant sa montre.
Il savait qu'il ne pouvait plus attendre. Il tendit la main à Shi Xiang.
Dashi, merci pour tout ce que vous avez fait pendant 2 siècles. Adieu. Peut-être qu'on se reverra un jour ailleurs.
Shi Xiang ne saisit pas sa main. Il la repoussa et lâcha.
Ne me racontez pas de conneries. Faites-moi confiance. Il ne se passera rien. Allez-y. Et puis repassez rapidement me prendre quand vous aurez terminé. Ce soir, quand on ira boire un coup, il ne faudra pas m'en vouloir si je me moque de vous.
Luoji s'empressa de tourner la tête et de monter dans la voiture. Il ne voulait pas que Shi Xiang le voie pleurer. Il s'installa dans le véhicule et s'efforça de graver dans sa mémoire l'image de Dashi qu'il voyait dans le rétroviseur. Puis il fit route vers son dernier voyage. Peut-être pourrait-il vraiment se revoir ailleurs. La dernière fois, ils avaient traversé 2 siècles. Que lui faudrait-il traverser cette fois-ci? Comme Wu Yu 2 siècles plus tôt, Luoji regretta soudain de ne pas croire en Dieu. Le soleil s'était entièrement couché, et le désert qui s'étendait des 2 côtés de la chaussée brillait comme de la neige sous les dernières lueurs vespérales. Luoji se rappela que 200 ans plus tôt, c'était le long de cette route qu'il conduisait sa Honda Accord, emmenant avec lui son amour imaginaire. Ce jour-là, la plaine était vraiment couverte de neige. Il sentit de nouveau ses longs cheveux soufflés par le vent et une mèche chatouiller le côté droit de son visage. « Non, non, ne dis pas où nous sommes. Dès que nous savons où nous sommes, le monde devient aussi étroit qu'une carte. Mais quand nous l'ignorons, il est sans limite. Eh bien, c'est d'accord. Faisons de notre mieux pour nous perdre. » Luoji avait toujours eu le sentiment que c'était son imagination qui avait fait venir Chuang Yan et sa fille dans ce monde. À ses pensées, il eut une pointe au cœur. En cet instant, l'amour et la pensée étaient les pires des tortures. Ses larmes brouillèrent une nouvelle fois sa vision. Il s'efforça de faire le vide dans son esprit, mais les yeux magnifiques de Chuang Yan s'acharnaient à combler ce vide, accompagnés par les rires enivrants de son enfant. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de concentrer son attention sur les nouvelles télévisées. La gouttelette avait passé le point de la grange et continuait à fondre sur la terre à une vitesse inchangée. Luoji arrêta la voiture dans un endroit qu'il jugeait idéal, à la frontière de la plaine et de la montagne. Aussi loin que pouvait porter son regard, il n'y avait ni humain ni habitation. Il gara la voiture dans une vallée en U, entourée par les montagnes, ce qui permettrait de limiter les effets de l'onde de choc qui aurait lieu lors de l'impact. Luoji prit la télévision de la voiture et la porta jusqu'au milieu du sable de la plaine, où il s'assit. La gouttelette passa sous les 35 000 km d'altitude de l'orbite géosynchrone. Elle frôla la cité spatiale de Nouveau Shanghai, où tous les habitants purent voir un point de lumière éblouissant se mouvoir rapidement dans leur ciel. Aux informations, on déclara que la collision aurait lieu dans 8 minutes. La longitude et la latitude de l'endroit de l'impact furent enfin révélées. Il aurait lieu dans le nord-ouest de la capitale chinoise. Luoji le savait déjà. Le crépuscule s'était fait lourd et le ciel était terne. On aurait dit un œil blanc sans pupille regardant le monde avec indifférence. Peut-être simplement pour faire passer le temps qui lui restait, Luoji commença à repasser sa vie en mémoire. Son existence pouvait être divisée en deux périodes entièrement distinctes. Celle qui avait débuté quand il était devenu colmateur était l'une d'elles. Même si cette période avait débuté il y a maintenant 2 siècles, il avait l'impression qu'elle avait été dense et compacte, que tout cela semblait n'avoir commencé qu'hier. Il sauta rapidement cette période, car elle n'avait jamais semblé faire partie de sa propre vie, y compris même cet amour qui s'était infiltré jusque dans ses os. Le rêve s'était évanoui. Il n'osait plus repenser à son épouse et à son enfant. Contrairement à ce qu'il aurait espéré, il découvrit que ses souvenirs précédant sa vie de colmateur étaient complètement effacés. Tout ce qu'il pouvait pêcher dans cet océan de mémoire, ce n'était que quelques fragments. Et plus il allait loin, plus les fragments se faisaient rares. Était-il vraiment allé au collège? À l'école primaire? Avait-il déjà eu un premier amour? Ses souvenirs morcelés semblaient pourtant avoir laissé des empreintes tangibles qui lui rappelaient que ces moments-là avaient effectivement eu lieu. Les détails étaient encore nets, mais les sentiments qui y étaient associés avaient disparu. Le passé était comme une poignée de sable dans sa main. Il croyait le serrer fermement, mais il avait depuis longtemps glissé entre les interstices de ses doigts. Sa mémoire était une rivière asséchée dont le lit ne contenait plus que des cailloux sans vie. Il avait toujours vécu pour le lendemain. Sitôt avait-il obtenu quelque chose qu'il en perdait une autre, et à la fin, il ne lui restait presque plus rien. Luoji regarda autour de lui les montagnes encore imprégnées de la lumière du couchant. Il se rappela cette nuit d'hiver, 200 ans plus tôt, lorsqu'il avait parcouru ces montagnes qui, épuisées d'être debout des millions d'années durant, s'étaient allongées comme des vieillards du village qui se prélassent au soleil, avait dit son amour imaginaire. La Chine du Nord, jadis couverte de champs et de villes, était devenue un désert. Mais les montagnes, elles, ne paraissaient pas avoir changé. Elles avaient toujours les mêmes formes irrémédiablement constantes. Des herbes flétries et des buissons de vitex poussaient toujours obstinément entre les crevasses grises des roches, ni plus ni moins abondantes que 2 siècles auparavant. 200 ans, c'était une durée trop courte pour qu'un changement visible se produisît sur ces énormes morceaux de rocher. À quoi ressemblait le monde humain aux yeux de ces montagnes? Ce n'était peut-être après tout que quelque chose qu'elles observaient nonchalamment, par un après-midi ordinaire. Des petites créatures vivantes étaient apparues sur la plaine, puis après quelque temps elles s'étaient multipliées, puis elles avaient érigé des structures semblables à des fourmilières. Ces structures brillaient de l'intérieur, il leur arrivait même de relâcher de la fumée. Encore un peu après, les lumières et la fumée avaient disparu, les petites créatures vivantes aussi. Leurs fourmilières s'étaient écroulées et avaient été recouvertes de sable. Rien d'autre. Parmi la myriade d'événements dont avaient été témoins les montagnes, cet épisode-ci avait passé à toute vitesse et il n'avait pas forcément été pour elles le plus intéressant de tous. Enfin, Luoji parvint à retrouver son souvenir le plus ancien. Il découvrit avec surprise en fouillant dans sa mémoire que sa vie avait commencé sur un rivage de sable. C'était sa préhistoire à lui. Il ne se souvenait plus très bien où il était ni qui se trouvait alors à ses côtés, mais il pouvait se rappeler que c'était un rivage de sable au bord d'une rivière. La lune était ronde dans le ciel, et les ondes de la rivière dansaient sous sa clarté. Il creusait dans le sable. Il avait fait un trou profond d'où suintait de l'eau, et dans l'eau se trouvait une petite lune. Sans relâche, il avait continué à creuser énormément de trous, engendrant autant de petites lunes. C'était son souvenir le plus ancien. Avant cela, tout était vide. Dans la couleur de la nuit, seule la lumière de la télévision éclairait un petit cercle de sable autour de lui. Il s'efforça de maintenir cet état de vide dans ses pensées. La peau de son crâne le tirait. Il avait le sentiment d'être pressé par une main de géant qui avait recouvert le ciel. Puis la main relâcha lentement son emprise. À une distance de 20 000 km de la surface, la gouttelette avait brusquement changé de direction et faisait cap vers le soleil. Le journaliste s'écria
« Hémisphère nord, attention ! Hémisphère nord, attention ! La luminosité de la gouttelette s'est accrue. Vous pouvez maintenant la voir à l'œil nu !»
Luoji leva les yeux et, en effet, il put la voir. Elle n'était pas très brillante, mais sa grande vitesse permettait de l'identifier facilement. Elle fendit la voûte comme une étoile filante et disparut à l'ouest du ciel. La vitesse relative de la gouttelette et de la Terre descendit à zéro. Elle ajusta sa position pour se trouver en orbite géosynchrone, ce qui voulait dire que dans les jours prochains, la gouttelette se trouverait entre le Soleil et la Terre à une distance de 40 000 km de celle-ci. Luoji eut le pressentiment que quelque chose d'autre allait se passer. Il se rassit sur le sable et attendit. Les trois flancs de ces montagnes vieillards, à côté de lui et dans son dos, accompagnaient sa solitude et lui apportaient une sensation de sécurité. Plus aucune information importante n'était relayée par la télévision. Le monde, ne pouvant être sûr que la catastrophe était passée, attendait nerveusement. 10 minutes s'écoulèrent et rien ne se passa. Les systèmes de surveillance terrestre montrèrent l'image de la gouttelette immobile et suspendue dans les airs. Les halos de propulsion à sa poupe s'étaient éteints et sa proue ronde faisait face au soleil dont elle reflétait les rayons. Un tiers de sa surface paraissait incandescent. Aux yeux de Luoji, une mystérieuse induction était en train d'avoir lieu entre la gouttelette et l'astre. L'image dans le téléviseur se brouilla soudain et la voix du journaliste se fit grésillante. Au même moment, Luoji sentit des perturbations tout autour de lui. Des flopées d'oiseaux effrayés s'envolèrent dans les montagnes. Un chien aboya dans le lointain. Ce n'était peut-être qu'une illusion, mais il ressentit de légers picotements sur sa peau. L'image et le son de la télévision tressautèrent encore quelques instants, puis redevinrent clairs. On apprendrait plus tard que les interférences existaient encore, mais que les systèmes de télécommunication avaient rapidement pu contrôler le bruit grâce à leurs filtres anti-interférences. Toutefois, la chaîne d'information n'avait pas été très prompte à réagir à cet incident à cause des données de surveillance qui devaient être analysées. Il se passa encore 10 minutes avant que l'on puisse à nouveau capter les informations. La gouttelette émettait de façon continue de puissantes ondes électromagnétiques vers le soleil, avec une intensité qui dépassait de loin le seuil d'amplification solaire et à une fréquence qui recouvrait toutes les longueurs d'onde que le soleil pouvait amplifier. Luoji se mit à glousser. Il rit bientôt jusqu'à perdre son souffle. Oui, il était vraiment égocentrique. Il aurait dû prévoir cela. L'importance n'était pas Luoji. C'était le soleil. À compter de ce jour, l'humanité ne pourrait plus utiliser le soleil comme super antenne amplificatrice pour envoyer des messages à l'univers. La gouttelette était en train de verrouiller le soleil.
Ah, vieux frère, vous voyez, il ne s'est rien passé. J'aurais vraiment dû prendre le pari.
Luoji ne savait pas quand Shixiang l'avait rejoint, mais il remarqua qu'il avait emprunté une voiture pour venir jusqu'ici. Luoji avait l'impression que quelque chose en lui s'était volatilisé. Il s'affala sur le sable, encore chaud des rayons du soleil du jour. Il se sentait bien.
Oui, Dashi. À présent, nous pouvons vivre nos vies. Tout est fini.
Vieux frère, c'est la dernière fois que je vous aide à accomplir une mission de colmateur,
lança Shixiang sur la route du retour.
C'est vraiment un job dangereux psychologiquement. Vous venez de refaire une crise.
J'espère aussi sincèrement ne plus avoir à jouer au colmateur, dit Luoji. À l'extérieur, les étoiles visibles la veille avaient disparu. À l'horizon, le désert noir se fondait avec la nuit. Seuls les phares éblouissants de la voiture continuaient à s'allonger sur la portion de route devant eux. Le monde était à l'image des pensées présentes de Luoji. Une obscurité omniprésente avec une seule petite tache incroyablement claire.
Vous verrez, ça ne sera pas compliqué pour vous de redevenir un homme normal. Vous n'aurez qu'à réveiller Chuangyan et votre gamine. Avec le bazar actuel, je ne sais pas s'ils vont suspendre le réveil des hibernautes, mais ça ne durera pas longtemps.
Je suis persuadé que la situation va vite être rétablie. Il reste encore plusieurs générations qui devront vivre avant la fin, non? Vous avez bien dit qu'on pouvait vivre notre vie maintenant, pas vrai? J'irai me renseigner demain pour vous au bureau d'immigration des hibernautes.
Les paroles de Shixiang ramenèrent Luoji à la réalité. Une petite lueur s'était enfin remise à scintiller dans son esprit grisâtre. Peut-être que ses retrouvailles avec son épouse et son enfant étaient sa seule chance de salut. Mais pour l'humanité, c'était déjà trop tard. Alors qu'ils approchaient du cinquième village de la nouvelle vie, Shixiang ralentit soudain la voiture.
« On dirait que quelque chose ne tourne pas rond, » fit-il en regardant devant lui.
Luoji remarqua dans l'air un halo projeté par une source de lumière au sol, mais les digues étaient trop hautes pour qu'on pût distinguer d'où venait cette clarté. Le halo vacillait, cela ne semblait pas être un lampadaire du quartier. Quand la voiture reprit l'autoroute, ils se retrouvèrent face à un paysage étrange et spectaculaire. La partie du désert située entre le cinquième village de la nouvelle vie et la route publique poudroyait comme un océan de lucioles. Ce ne fut qu'au bout d'un long moment que Luoji comprit qu'il s'agissait d'une foule de personnes, des gens de la capitale, et que ce qui émettait de la lumière, c'était leurs vêtements. La voiture approcha lentement de la foule. Luoji vit que les gens au premier rang levaient les mains pour se protéger des phares violents du véhicule. Shixiang éteignit les phares et ils firent face à une muraille humaine aux couleurs étranges et criardes.
« Ils ont l'air d'attendre quelqu'un, » dit Shixiang en regardant Luoji, et ce regard inspira aussitôt de la nervosité à ce dernier.
Shixiang arrêta le véhicule.
« Ne bougez pas de là, je descends pour voir ce que c'est. »
Il sauta de la voiture et marcha vers la foule. Devant cette scintillante muraille humaine, l'épaisse carcasse de Shixiang se découpa en une silhouette noire. Luoji vit qu'il s'était rendu au milieu d'elle. Il parut échanger quelques phrases simples, puis revint rapidement vers la voiture.
« C'est bien ce que je pensais. C'est vous qu'ils attendaient. Allons-y, » dit Shixiang en lui ouvrant la porte.
En voyant l'expression sur le visage de Luoji, il le rassura.
« Ne vous en faites pas, vous ne risquez rien. »
Luoji descendit et se dirigea vers la foule. Il avait beau s'être accoutumé aux vêtements étranges des hommes modernes, sur cette plaine désertique, il lui semblait encore marcher au-devant d'une espèce différente de la sienne. Quand il fut suffisamment près pour distinguer leurs expressions, les battements de son cœur s'accélérèrent. La première chose qu'il avait apprise au lendemain de son réveil d'hibernation, c'était que les foules d'époques différentes avaient leurs expressions uniques. Les différences étaient incroyablement marquées entre deux ères ainsi éloignées dans le temps. C'est pourquoi il pouvait facilement discerner les hommes modernes des hibernautes réveillés depuis peu. Mais en observant maintenant l'expression de cette foule, Luoji ne vit ni l'époque moderne ni le 21e siècle. Il ignorait à quel temps elle appartenait. La peur le figea, mais sa confiance en Shixiang remit sa mécanique en marche et il continua à avancer. Quand la distance entre lui et la foule se réduisit encore, il s'arrêta net. Car il voyait à présent les images projetées sur leurs vêtements. C'était lui, Luoji. Des photographies statiques pour quelques-unes, ainsi que des vidéos. Depuis qu'il était devenu colmateur, il n'était quasiment jamais apparu devant les médias, et il ne devait pas exister beaucoup d'archives visuelles de sa personne. Mais c'était bien son image qui était à présent projetée sur les vêtements de la foule. Il reconnut même certaines photographies datant d'avant sa prise de fonction de colmateur. Les vêtements étant connectés, ces images avaient dû être diffusées dans le monde entier par le biais d'Internet. Il remarqua aussi qu'elles étaient toutes authentiques. Elles n'avaient pas été retouchées comme aimaient pourtant le faire les gens à cette époque, ce qui signifiait qu'elles venaient sans doute tout juste d'être postées sur Internet. En voyant Luoji s'arrêter, la foule se mit à avancer vers lui. À 2 ou 3 mètres de distance, les gens du premier rang s'efforçaient de bloquer la progression de ceux de derrière, puis ils s'accroupirent, et ceux des rangs de derrière firent de même. La foule scintillante ressemblait maintenant à une marée en train de refluer sur la plage.
« Notre Dieu, sauvez-nous !»
entendit Luoji dire le premier individu, et sa phrase souleva un écho bourdonnant.
« Seigneur, sauvez notre monde. Grand porte-parole, faites respecter la justice du cosmos. Ange de la justice, sauvez l'humanité.
Deux personnes approchèrent de Luoji. L'une d'elles portait des habits qui ne scintillaient pas. Luoji la reconnut. C'était Heinz. L'autre était un militaire aux épaulettes et aux insignes clignotants. Heinz dit gravement à Luoji.
Docteur Luoji, je viens d'être nommé envoyé spécial du programme Collmateur en charge de vos relations avec les Nations Unies. J'ai reçu l'ordre de vous informer que le programme Collmateur a été réactivé. Vous avez été désigné seul collmateur.
Ben Jonathan, dit le militaire, délégué spécial du comité conjoint de la flotte solaire, nous nous sommes déjà rencontrés au moment de votre réveil. J'ai de mon côté reçu l'ordre de vous informer que les flottes asiatiques, européennes et nord-américaines ont toutes approuvé la nouvelle entrée en vigueur de la charte des collmateurs et ont reconnu votre statut de collmateur.
Heinz pointa du doigt la foule accroupie dans le sable.
Aux yeux du public, vous avez à présent deux identités. Pour ceux qui croient en Dieu, vous êtes son ange de la justice. Pour les athées, vous êtes le porte-parole d'une super-civilisation de justice de la galaxie.
Une chape de silence tomba. Tous les regards convergèrent sur Luoji. Il réfléchit pendant un bon moment, mais ne vit qu'une seule explication.
La malédiction a fonctionné ? Osa-t-il.
Heinz et Jonathan hochèrent tous deux la tête. L'étoile 187J3X1 a été détruite.
Quand ça ?
Il y a 51 ans. L'événement a pu être observé il y a un an. Mais personne n'accordait plus d'attention à cette étoile. Ce n'est que cet après-midi que les observations ont été redécouvertes. Face à la situation désespérée, des membres du comité conjoint de la flotte solaire ont essayé de trouver de l'inspiration dans l'histoire. Ils se sont souvenus du programme Collmateur et de votre malédiction, et ils ont donc jeté un coup d'œil à la situation de 187J3X1. Ils ont découvert qu'elle n'existait plus, et qu'à son emplacement ne restait plus que des rémanents de supernova. Ils ont ensuite consulté toutes les données d'observation archivées au sujet de l'étoile et sont remontés sur la piste de sa destruction il y a un an. Ils ont pu indexer les paramètres d'observation de 187J3X1 au moment où elle a explosé.
Comment savez-vous qu'elle a été détruite ?
Comme vous le savez, 187J3X1 était dans une phase stable, comme notre Soleil. Elle ne pouvait donc pas exploser naturellement en supernova. Mieux, sa destruction a été observée. Un objet voyageant à la vitesse de la lumière est entré en collision avec 187J3X1. Ce minuscule objet, particule de lumière, comme ils l'ont appelé, a pu être observé grâce à son sillage au moment où il a franchi l'atmosphère stellaire de l'étoile. Malgré sa petite taille, sa vitesse proche de celle de la lumière a considérablement amplifié sa masse relative. Au moment d'entrer en collision avec 187J3X1, l'objet faisait déjà un huitième de celle de l'étoile. Les quatre planètes du système ont été vaporisées dans l'explosion.
Luoji releva la tête. La nuit était noire, on ne voyait presque aucune étoile. Il avança. La foule se leva et lui céda silencieusement le passage, mais elle se referma aussitôt derrière lui. Tous voulaient le serrer de plus près, comme s'il cherchait un rayon de soleil au cœur d'un hiver glacial. Mais il lui laissait toutefois un petit cercle, une tache noire au milieu d'un océan fluorescent, comme l'œil d'un cyclone. Quelqu'un sortit des rangs et se prosterna devant Luoji, l'obligeant à arrêter ses pas. L'homme lui baisa les pieds. D'autres firent de même en entrant dans le cercle. Alors que la situation n'allait pas tarder à dégénérer, des cris de terreur retentirent dans la foule et certains se relevèrent, paniqués, et se replièrent en sursaut sur le reste de la foule. Luoji continua à marcher, mais il songea soudain qu'il ne savait pas où il allait. Alors il s'arrêta encore une fois et leva la tête pour chercher Heinz ou Jonathan du regard et les rejoindre.
« Et qu'est-ce que je dois faire maintenant ? »
demanda-t-il quand il fut à la hauteur des deux hommes.
« Vous êtes un collmateur ? Vous pouvez faire tout ce qui est dans le périmètre de la charte du programme collmateur ?»
dit Heinz en s'inclinant devant lui.
« Bien sûr, il existe encore quelques restrictions de principe, mais vous pouvez aujourd'hui à peu près mobiliser toutes les ressources de la Terre. »
Ainsi que celle des flottes internationales, compléta Jonathan.
Luoji réfléchit, puis lâcha. « Je n'ai besoin de mobiliser aucune ressource pour le moment. Mais si l'on m'a effectivement réinvesti des droits qu'avait autrefois les collimateurs, aucun doute à ce sujet, » anticipa Heinz, et Jonathan approuva de la tête. « Alors j'ai deux exigences. La première, c'est de rétablir l'ordre dans toutes les villes, que la vie reprenne normalement son cours. Il n'y a rien de mystique autour de cette exigence. Je suis sûr que tout le monde peut la comprendre. »
Tous hochèrent la tête et quelqu'un lança.
« Seigneur, le monde entier vous écoute. »
« Oui, le monde entier vous écoute, » renchérit Heinz.
« Rétablir l'équilibre dans les villes prendra du temps, mais avec vous, nous croyons que nous pouvons y arriver. »
Ces paroles reçurent l'approbation générale.
« Et ma deuxième ? Que tout le monde rentre chez soi. Je souhaite que cet endroit soit calme. Je vous remercie. »
En entendant cela, tout le monde se tut, mais très vite un bourdonnement de voix s'éleva. Les paroles de Luoji se propageaient à travers la foule. Les gens commencèrent à se disperser, lentement, un peu contre leur gré au début, mais en accélérant peu à peu. L'une après l'autre, les voitures regagnèrent l'autoroute et repartirent dans la direction de la ville. Beaucoup d'autres personnes partirent en marchant au bord de la route, comme une longue colonie de fourmis scintillantes. Le désert fut à nouveau vide. Sur le sable encore truffé d'innombrables empreintes de pas, il ne restait plus que Luoji, Shitsiang, Heinz et Jonathan.
« J'ai vraiment honte de celui que j'étais autrefois, » dit Heinz.
« La civilisation humaine n'a que 5000 ans d'histoire et nous accordons tant d'importance à la vie et à la liberté.
Peut-être y a-t-il dans l'univers des civilisations de plusieurs milliards d'années ? Quel genre de moralité possède-t-elle ? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ?
Moi aussi j'ai honte de moi. Ces derniers jours, j'en suis venu à douter de Dieu, » dit Jonathan. Puis il vit qu'Heinz voulait dire quelque chose et il leva la main pour l'arrêter.
« Non, non, mon ami. Nous parlons peut-être de la même chose. »
Tous deux s'enlacèrent et éclatèrent en larmes.
« Messieurs, » dit Luoji en leur tapant le dos, « je pense qu'il est pour vous aussi l'heure de rentrer. Si j'ai besoin de vous, je vous recontacterai. Merci. »
Luoji regarda ce duo guilleret s'éloigner bras dessus bras dessous. Il ne restait maintenant plus que Shitsiang et lui.
« Tashi, qu'est-ce que vous avez envie de dire ?» lui demanda-t-il dans un sourire.
Shitsiang resta immobile, les yeux et la bouche grands ouverts, comme s'il venait d'assister à un tour de magie époustouflant.
« Vieux frère, je suis complètement paumé. »
« Comment ? Vous ne croyez pas que je sois un ange de la justice ?»«
Pas une seconde. »
Et le porte-parole d'une civilisation supérieure ?
C'est déjà plus crédible, mais franchement, je n'y crois pas non plus. Je n'ai jamais vu les choses comme ça.
Croyez-vous qu'il existe une équité et une justice dans l'univers ?
Je n'en sais rien.
Mais vous êtes chargé d'appliquer la loi.
Je vous ai dit que je n'en savais rien. Dites-moi, je suis paumé.
Alors c'est vous qui êtes le plus sensé.
Pouvez-vous me parler de cette justice de l'univers ?
Oui. Suivez-moi. Quand il eut fini, Luoji commença à se diriger plus profondément dans le désert, suivi de près par Shitsiang. Ils marchèrent pendant un long moment en silence et franchirent l'autoroute.
Où va-t-on ?
Là où il fait le plus sombre.